gentlemen. Guten Abend, bonsoir, good evening. Pickets, do you feel good? Comment ça va?
Bonsoir à tous et à toutes. Nous sommes donc, vous êtes donc, vous écoutez bien La Causerie, 102.2, Radio Canu, la plus rebelle des radios. Alors normalement on dit là, autour de studio tout de suite. Au studio ce soir, nous avons Jonathan.
Bonsoir.
Clara.
Bonsoir.
À la technique. Et Mel.
Et bonsoir.
Qui nous revient donc pour les auditeurs réguliers, vont savoir de quoi on va parler ce soir. Voilà. Juste avant que Mel et Jonathan partent sur leur petit sujet, je vous rappelle donc que vous pouvez nous retrouver sur, donc en direct sur internet,
oui.
Sur radiocanu.org. Vous pouvez aussi retrouver le blog de La Causerie sur blogs.radiocanu.org/lacauserie. Et vous pouvez nous contacter
à lacauseriecanu@gmail.com.
Merci Clara.
Voilà. Et donc c'est La Causerie 206.
Oui.
Et puis voilà.
CW avec injection et.
Ah oui, aussi.
Pardon.
Et on est également sur Facebook.
Ah oui.
Et Fab n'est pas là ce soir pour le dire, donc posez plein de commentaires pour l'embêter. Vu qu'il dit à chaque fois non, ça sert à rien, c'est nul, tout ça. Allez-y, faites-vous plaisir aujourd'hui. On va lancer donc par Mel et Jonathan. Qui vont reprendre deuxième partie du sujet que vous avez traité, donc sur la maltraitance du vagin.
Tout à fait. Bon, bah, du coup, alors en fait, pour commencer, j'aimerais expliquer le pourquoi du comment du sujet sur la maltraitance du vagin. Alors pour ceux qui n'étaient pas là à la première émission de la saga, et aussi parce que la dernière fois on a démarré un peu rapidement sur le sujet, en fait on se réunit régulièrement avec Jonathan et moi, des fois avec d'autres copines aussi. Forcément, réunion entre filles oblige, le propos sur le vagin revient souvent sur la table, entre ce qu'on sait, ce qu'on pense savoir, ce qu'on entend et ce qu'on ignore au final, c'est un gros sac de nœuds. Le fait de partager ça entre nous aujourd'hui, je me sens plus à l'aise avec la question, donc pourquoi pas le partager avec vous, chères auditrices et chers auditeurs également. Je tiens quand même à préciser que ni Jonathan ni moi ne sommes des professionnels du domaine du vagin. On n'a pas la prétention de vous faire un cours agrémenté par l'État. Hein. C'est juste les recherches, les opinions et le ressenti de deux nénettes. Après, on peut être d'accord ou non avec nos idées. L'essentiel, c'est justement d'élever le débat pour la question taboue du sexe féminin. Donc ce soir, règles et protection hygiénique. Donc je vais laisser parler Jonathan pour qu'elle nous explique un peu comment ça fonctionne.
Oui, parce que comme le dit très très bien Mel, quand on a décidé de faire cette émission, c'était aussi parce qu'on s'est rendu compte qu'on connaissait pas très bien le fonctionnement du corps féminin. Alors, petit rappel qui pourrait faire écho avec les cours de 5e et également les cours de lycée sur la question du fonctionnement d'un appareil génital féminin finalement, puisque le vagin n'est qu'une partie. Pour parler des règles, comment ça marche, bah c'est simple. On parle de cycle menstruel parce que bah il se passe toujours la même chose sur un cycle qui dure en moyenne 28 jours. Alors déjà, ça c'est une moyenne hein, qui est totalement arbitraire parce qu'il y a des femmes qui ont des cycles de 30, des femmes qui ont des cycles de 24, 21 jours. Enfin, c'est vraiment les femmes qui ont des cycles irréguliers. D'ailleurs, je fais une parenthèse, on n'a pas forcément parlé en prépa, mais c'est pas grave d'être irrégulier après un certain âge. Enfin, Carrie de Stephen King, c'est un roman d'horreur. Sinon, allez voir votre gynéco, elle vous dira que chacun son rythme. Donc voilà. Et qu'est-ce qui se passe pendant ce cycle ? Eh ben, c'est simple, l'ovaire, qui est un peu, comme on le disait, la couille de la femme, entre
guillemets. Les couilles, hein.
Qui est en fait l'organe qui permet de sécréter nos gamètes, c'est-à-dire ce qui va nous permettre de nous reproduire, eh bien, lâche une gamète, c'est-à-dire un ovule, qui est terminé, c'est-à-dire que nos ovules, nous les femmes, mûrissent hein, dans nos ovaires. Et cet ovule qui est mûr se colle à l'endomètre. Alors l'endomètre, c'est la paroi de muqueuse qui est dans l'utérus, qui est autour des parois de l'utérus, donc pas dans le vagin. Et cet endomètre, qu'est-ce qu'il fait ? Ben, pendant 14-15 jours, il se gonfle en attendant ben voilà, de recevoir un deuxième gamète qui fécondera l'ovule et de pouvoir accueillir un fœtus. Sauf que ben, quand l'ovule n'est pas fécondé, il se dégrade, c'est-à-dire que c'est là le moment où on a ce qu'on appelle les règles, un saignement dû à la dégradation de cet endomètre. Et ce saignement peut durer 4 à 8 jours, voire plus, dans certains cas, voire beaucoup moins, surtout quand on est sous protection, sous contraception hormonale. Et enfin, la dernière partie du cycle, c'est la reconstruction de l'endomètre. Et ensuite, on repart voilà, sur une ovulation, puis les règles. Alors, les fameuses règles, le nom scientifique, c'est une ménorrhée, c'est-à-dire le moment où ça saigne de l'utérus. Et donc, dans tout ça, l'utérus, bah, il est derrière le vagin. Et le vagin, c'est quoi ? C'est un canal. Et c'est donc le canal d'évacuation des ragnagnas. Et finalement, c'est par là que passe le sang, mais aussi certaines odeurs, parfois, on va l'aborder un petit peu plus tard. Et des douleurs aussi qui sont liées ben, finalement à ce cycle, mais qui sont ressenties aussi, qui peuvent être ressenties au niveau du vagin, même si c'est des douleurs utérines. Et donc, Mel va pouvoir nous expliquer en quoi finalement certaines choses dans la protection hygiénique montrent bien que bah, notre société cherche un petit peu à cacher plutôt qu'à comprendre ce fonctionnement-là. Donc,
Ouais, donc du coup, on a le choix aujourd'hui d'utiliser serviettes hygiéniques, protège-slip, tampons, bah, qui sont vendus en supermarché ou aussi en pharmacie. On a un large choix de marques et de caractéristiques différentes, comme ultra-absorbantes, parfumées, protection pour la nuit, pour faire de la salsa ou grimper sur le dos de son petit chéri, en toute sécurité, comme on peut le voir dans les pubs pour ces protections. Pour les produits parfumés, on a encore cette utilité de masquer, comme les produits d'hygiène dont on avait parlé la dernière fois, de masquer les odeurs naturelles. Ben après, pourquoi pas, hein. Demain, au lieu de prendre sa douche, on va se rajouter du parfum et encore une fois, ça va donner quelque chose de très agréable.
Ça fait un petit peu méthode Louis XVI, entre guillemets.
Oui, c'est vrai que ça me fait penser à ça aussi. On camoufle, hein, ça reste du camouflage. Alors que bon, au moment des règles, ben voilà quoi.
C'est pas...
On est plus à ça près. Hein.
Non, et puis il n'y a rien à camoufler quelque part. Non. Mais... Pourtant, notre société nous amène à ça. Donc, aussi avec... Enfin, quelque part, qui on protège un petit peu de ça
Les autres, les personnes extérieures. Peut-être plus particulièrement ceux qui ne sont pas concernés, pour le coup. Donc, les hommes. Voilà.
Donc, tu vas également nous parler voilà. Peut-être des protections hygiéniques et oui. De leur...
Alors du coup, je suis allée me renseigner sur une boîte de serviettes vendue en pharmacie, parce que on va dire que pour moi, la pharmacie, c'est ce qui représente quelque chose de assez sain, vu qu'on y vend des médicaments. Pour moi, on peut pas me vendre quelque chose qui
te ferait du mal.
Oui, voilà, qui me ferait du mal. Et j'ai toujours l'impression aussi que c'est un peu plus naturel que ce qui est vendu en supermarché.
Oui, on est en confiance dans une pharmacie.
On sent complètement en confiance, voilà. Et du coup, j'ai choisi une boîte de serviettes hygiéniques, dont je ne dirai pas la marque. Non ? Non, d'accord. Mais bon, on va dire que c'est une marque qui est plutôt dans le... Comment dire ? Pas dans le médical, mais qui est censée prendre vraiment soin de l'hygiène
corps de la femme.
Voilà, du corps de la femme, exactement. Alors, sur la boîte, écrit en gros « Cotton Touch », donc en anglais, alors que tout le reste est écrit en français, je ne sais pas pourquoi. Peut-être pour qu'on ne voit pas le côté « touch », qui veut dire « touche », donc « infime ». En plus petit, fraîcheur grâce à son fond micro-aéré, voile 100% coton hydrophile, aux extraits naturels de thym et de calendula. Derrière, en tout petit, comme d'habitude, une liste de 19 ingrédients avec leurs appellations scientifiques quasiment incompréhensibles pour la plupart d'entre eux. Quand on pousse la recherche sur Internet, sur le produit, on peut lire « constitué d'un fond micro-aéré, précisé cette fois de cellulose et polymère et d'un voile de coton ». Tout d'un coup, on a un peu moins de coton qu'on pensait dans le produit. Hein. On a juste un petit voile. Alors, qu'est-ce que c'est en fait réellement tout ce barouf, les polymères et compagnie? Alors, déjà, on a le mélange de coton, donc cultivé à grand renfort de pesticides toxiques, et la cellulose des arbres, donc qui est marron à la base, donc blanchi au chlore, qui laisse des résidus de dioxines, produits toxiques dangereux. Et le polymère, c'est des cristaux absorbants, un peu comme les pastilles anti-humidité qu'on va mettre dans les placards. Voilà. Finalement, en fait, c'est pas que du coton. On voit ça, l'aspect est assez trompeur par rapport à ce produit. Alors, même composition pour les tampons, sauf que cette fois-ci, il faut prendre en compte qu'on a une paroi vaginale qui assimile les toxines. Hein. Donc, de base, en fait, on va utiliser des protections pour absorber notre flux de sang lors de nos règles. Et en fait, à l'inverse, on absorbe un petit peu ou on assimile les toxines, en infime quantité.
Mais en infime quantité, ça ne veut pas forcément dire que ce n'est pas dangereux. Enfin, le vrai problème, c'est qu'on ne le sait pas.
Justement, en fait, ils commencent un peu à pousser la recherche sur la question. Heureusement, ce n'est pas trop tôt. Hein. Je pense quand même que c'est quelque chose qui aurait dû être fait peut-être à la conception du produit et pas quelques décennies plus tard. Enfin, quand on a eu le temps que ça rentre bien dans les mœurs, que ça soit un produit consommable. Mais bon, les conséquences sont encore ignorées aujourd'hui, mais il pourrait y avoir une corrélation avec certaines maladies comme l'endométriose, par exemple, sans parler du fait que le tampon agit comme un bouchon, donc risque de ce qu'on appelle le choc toxique quand on garde trop longtemps un tampon, surtout les ultra-absorbants qui bloquent les toxines. D'ailleurs, dans les années 80, aux États-Unis, ils ont référencé 700 femmes qui ont subi un choc toxique en fait à cause d'une serviette hygiénique ultra absorbante qui était sortie à l'époque.
Donc finalement c'est pas anodin, c'est pas innocent.
C'est vraiment pas anodin. Voilà. Du coup, qu'est-ce qu'on a comme alternative, Jonathan, à part les serviettes hygiéniques et les tampons?
Eh bien, déjà. On s'aperçoit aussi que dans la façon dont c'est conçu, on cherche surtout à, comme tu le disais, à protéger les personnes extérieures de l'apparence des règles, de la possibilité qu'elles existent chez la femme, et puis la femme doit cacher ça parce que bah, quelque part c'est un petit peu honteux entre guillemets, et puis quelque part on cache aussi la preuve du fonctionnement du sexe de la femme, ça, et on cherche à changer les odeurs. Donc il y a des gens qui se sont dit, par rapport à tout ça, on va essayer de trouver une solution alternative. La fameuse cup. Mais là encore, c'est un peu une alternative vite trouvée, avec peu d'études à l'appui, à la commercialisation, parce que c'est vrai, c'est très très bien finalement de ne rien mettre de chimique, entre guillemets, dans son vagin. Et d'éviter donc les chocs toxiques, et également l'assimilation de toxines que le corps ne peut pas gérer. Mais d'un autre côté, qu'est-ce que c'est qu'une cup? C'est un morceau de silicone en forme de coupe, très clairement, qui est donc qui se plie, qui s'insère dans le vagin à la base de l'utérus pour récolter le sang lié aux règles. Et c'est pas parce qu'il y a pas de produit toxique dessus que ce n'est pas toxique. C'est-à-dire que un choc toxique, c'est quand à un moment donné le corps ne peut plus assurer finalement la défense contre des toxines. qui arrivent directement par les muqueuses. Donc là, pareil, garder beaucoup trop longtemps la cape peut se révéler aussi source d'infection et de choc toxique. C'est du silicone. On sait que le silicone dans les prothèses mammaires est potentiellement un facteur de cancer, donc pourquoi ça ne le serait pas dans le vagin? Enfin, j'ai envie de dire aussi, voilà, enfin, c'est... le raisonnement serait étrange s'il a été fait autrement. Et il y a encore une fois un côté bouchon. Enfin, je trouve ça hyper dégradant dans l'image de mettre un tampon ou de mettre une cup dans son vagin pour empêcher les autres de voir qu'on a nos règles. Et nous, soi-disant, pour nous aider à bouger et s'amuser dans tous les sens et tout machin, pour aller même à la piscine. Parce que, enfin, je veux dire, des fois, t'es fatigué quand t'as tes règles et tout, t'as pas forcément envie d'aller à la piscine, mais il faut quand même pas que ça se voit, quoi. Donc c'est encore un petit peu dans ce sens-là, ça, non, mais, ça m'énerve un petit peu.
Mais je suis d'accord avec toi, d'ailleurs, dans les pubs pour les protections hygiéniques, elles ont l'air tellement heureuses quand elles ont leurs règles. Alors, je sais pas, pour vous, mais moi, je suis un peu moins souriante. Mais après, on reproche aussi la douleur, on en parlera de toute façon tout à l'heure, mais à un moment donné, quand t'as mal, tu peux pas non plus être souriante. C'est pas Candy au pays des merveilles, quoi.
Non, ça, sans en faire un drame, ça existe, quoi. Il faut qu'on le prenne en compte. Et donc, une dernière chose sur la cup, avant de peut-être faire une petite coupure musicale, c'est qu'il y a aussi des imperfections sur le silicone. Donc, des petites pointes invisibles à l'œil nu, mais qu'on va ressentir sur les muqueuses. Et se balader toute la journée avec un matériel qui a coûté dans les 60 balles, donc à l'époque où moi j'en avais acheté une, qui a une imperfection, non, je suis désolée, ça suffit à se dire je veux plus porter ce truc-là pendant mes règles, parce que non seulement je suis fatiguée, non seulement j'en ai un peu ras le cul parce que tout le monde me regarde bizarre parce que j'ai mes règles, et qu'on va me dire forcément dès que je vais m'énerver, quoi, t'as tes règles? Et oui, et alors? Et en plus j'ai une cup qui me gratte et qui me fait mal parce qu'il y a une imperfection sur le silicone, tu vois. Donc j'ai envie de dire, à un moment donné, ça aussi c'est pas la solution miracle. Si c'est mal fait, tu peux pas aller voir ton pharmacien en disant eh oh, donne-moi un autre modèle, là, celle-là elle est mal foutue. Ah bah non, désolé, c'est de série. Donc bon, voilà. Tout ça pour dire que finalement, on trouve des solutions bien rapides à certains problèmes qu'on n'a pas envie de voir. Est-ce que sur ce, on se met un petit peu de musique?
Allez.
Allez, c'est parti. Musique.
So sad, might leave my nose running. I just hope she don't wanna leave me. Don't you give me up, please? Don't give up on me. I belong with you, only you, baby. Only my girl, only you, baby. Only you, darling, only you, baby. Wait, I don't know, maybe I think of her so much it drives me crazy. I just don't want her to leave me. Only you.
darling, only you.
Et vous êtes bien de retour dans la causerie sur Radio Canu. Et qu'est-ce qu'on vient d'écouter, Mel ?
Alors ça, c'est mon morceau du moment, Steve Lacy, Dark Red.
Et c'était joli.
C'est beau, hein ?
Et c'était chouette. Et ça a permis d'étendre un petit peu, finalement, quand on était en train de parler de pratiques douloureuses en termes de protection hygiénique. Juste avant de passer un petit peu à la suite, préciser qu'il y a des façons alternatives de se protéger.
Oui, oui, il y a d'autres. En fait, ça, c'est ce qu'on voit le plus fréquemment en fait dans les publicités ou aussi dans les points de vente. Mais il y a d'autres alternatives comme la serviette lavable.
Oui, en fait, qui est comme un linge en coton.
Voilà, comme pour les bébés avant qu'il y ait les couches jetables. C'est pareil, il y avait des langes, tout simplement.
Et puis il y a aussi tout ce qui est contrôle de son corps par l'appropriation, c'est ce que tu disais, Stan, petit morceau musical.
C'est la grande tendance actuelle, enfin moi, de ce que j'entends en tout cas, qu'il y a une espèce de mouvance sur cette idée qui marche en partie, qu'on peut contrôler son corps, du moins il est exercé pour, c'est-à-dire que bloquer les règles tant qu'on n'est pas dans une position où on peut avoir les règles à ce moment-là, et qu'elles vont se débloquer à un moment où on est sur les toilettes, etc. Quoi.
Alors, c'est des exercices du périnée, hein, souvent, qui se font, et des exercices de contraction aussi du col de l'utérus. Mais il y a des nombres. Alors donc, mesdames, messieurs, mesdemoiselles, jeunes filles, jeunes garçons, tout le monde, sachez que c'est des choses aussi. Si notre corps est fait comme ça, il y a moyen finalement de le comprendre. Donc le but de cette émission, on le rappelle, de notre saga avec Mel, c'est aussi de nous amener à chercher à comprendre chacun notre corps. Comment il est fait, comment il fonctionne, et de pas avoir honte de ce que, en général, on nous impose d'avoir honte.
Non mais c'est vrai. En plus, je trouve que, comme on parlait pendant la pause là, c'est vrai que j'ai l'impression qu'aussi on est une génération où il y a un peu une prise de conscience, que ça soit par rapport aux règles, par rapport aussi à tout ce qui est un peu épilation, on en a déjà parlé. Les femmes maintenant, il y a pas mal de femmes qui ont décidé d'abandonner toutes ces pratiques. Il y a le no poo aussi. En fait, maintenant, on essaye un peu de faire confiance à notre corps qui est capable en fait de faire face à tout ce genre de situations.
Qui sont finalement relativement naturelles.
Voilà, on revient un peu au naturel.
Même à l'inverse, en fait. Quand on s'épile trop, etc., c'est une agression pour le corps.
C'est ça.
On essaie vraiment de l'attaquer, en fait. On attaque quelque chose qui fonctionne très bien de base.
C'est ça. En tout cas, par rapport à la question des protections hygiéniques, moi, j'invite les auditeurs à aller réécouter la... l'émission numéro 123 du 18 octobre 2015 avec Nadège, où on parlait de la taxe rose des tampons et notamment de pratiques en fait de protection dans les pays où on n'a pas forcément les moyens de se payer de la cellulose, du coton, qui sont encore pires et qui témoignent aussi du fait que si déjà nous que nulle part en fait on cherche à informer les femmes de ce qui peut être dangereux ou non pour elles. Enfin, dans aucun pays réellement, on cherche à informer les femmes de comment prendre soin d'elles-mêmes. Et ça me permet d'enchaîner aussi sur le fait qu'on ne prend pas vraiment soin des femmes. C'est-à-dire que, on a établi là, en début de sujet, de chronique, qu'avoir ses règles, bon, c'est un fonctionnement du corps, que c'est naturel. Et pourtant, Mel, j'ai l'impression que... Il y a, malgré le fait que ce soit naturel, que ça participe à la reproduction, tout ça, déjà, il y a deux choses qui me gênent. C'est d'abord, les hommes dans tout ça ne sont pas forcément tenus pour concerner. Et les femmes sont perçues différemment suivant qu'elles aient leurs règles ou pas. Alors, ces deux affirmations, est-ce que tu peux nous éclairer?
Oui, bien sûr. Mais après, voilà, là, on rentre un peu plus dans mon opinion, ce que je pense. Donc, libre à chacun d'y adhérer ou pas. À ma secte, rentrer dans ma secte. Les hommes, j'ai l'impression... après, je fais toujours des généralités pour grossir un peu le trait. Hein, mais ils sont très très peu... Déjà, on n'est pas tant que ça au courant de la chose. Et donc les hommes encore moins. Et puis on a l'impression que ça les concerne pas du tout. Forcément, ils éprouvent pas ce qu'on éprouve tous les mois. C'est rentré un peu, c'est dans la norme. Voilà, de toute façon, on est des filles. Une fois par mois, ça nous arrive. On prend sur nous et puis c'est tout. Mais j'ai l'impression qu'on n'est pas prise en considération sur le sujet.
Et puis c'est rare les hommes qui vont aller acheter des serviettes hygiéniques ou des tampons pour leurs femmes. Oui. Ça va les mettre mal à l'aise. Ça va être rare les hommes qui se renseignent, qui en parlent, qui parce que on les a éduqués quelque part à être mal à l'aise. Hein. Attention messieurs, on vous stigmatise pas forcément si vous faites l'effort.
Ah non, mais bien sûr. Mais voilà. En même temps, voilà, on les protège de ça depuis qu'ils sont petits. On leur en parle pas, voilà, la discussion à la puberté avec sa fille, on n'inclut pas le petit frère non plus pour qu'il profite des informations. Ça reste une discussion en général, en plus, mère-fille, donc du coup, on peut penser aussi aux pères qui ont des filles, enfin, s'il n'y a pas de maman, ça devient compliqué, donc eux, peut-être qu'ils s'y intéressent un peu plus, mais au final, si c'était un peu plus démocratisé, peut-être qu'on aurait plus d'informations, voilà. Quoi.
Pour, au moins pour engager la communication.
Oui, pour engager la communication. Voilà. Après, c'est pas pour... oui, voilà, il n'y a que nous. Soutenez-nous, soyez solidaires avec nous. Pas forcément pour ça, mais au moins de pas faire comme si ça n'existait pas. De pas se dire, bon, bah voilà, t'as tes règles. Effectivement, j'ai besoin de savoir que t'as tes règles juste par rapport au rapport sexuel. Pour savoir quand est-ce qu'on arrête. Enfin, voilà.
Ouais, non, être un petit peu plus concerné par ce qui se passe dans le corps de l'autre, quoi. Et la deuxième c'était... question, c'était aussi comment on perçoit ces... Parce qu'en fait, disons-le franchement, dans notre prépa, on s'est demandé, voilà, une femme qui a ses règles, souvent, ben, comme je disais tout à l'heure même, t'as tes règles, t'es pas très bien, ben on va te dire, ah ben t'as tes règles. Ah bah ça va pas, c'est pour ça. C'est pour ça que ça va pas.
Ah,
c'est pas
voilà, rapport au saut d'humeur, voilà. Compagnie, et puis, la façon dont on est perçu en fait.
Et puis la femme qui dit j'ai trop mal, je suis obligée de rentrer chez moi, j'ai mes règles. Oh, mon Dieu, bah, elle fait du cinéma, elle a ses règles, elle peut pas rester au travail.
Non mais alors, c'est exactement ça. Surtout
c'est
alors,
question,
alors surtout dans le cadre du travail. Là je pense que on a un gros problème après. Moi, je prends mon expérience personnelle aussi, en fait, sur la chose. C'est pour celles qui ont des règles douloureuses, allez dire à votre patron, bah, je ne peux pas venir, forcément, il va falloir un certificat médical. Ça devient assez compliqué. Et étant donné que la douleur est variable d'une femme à l'autre, elle peut être simulée. Et on nous apprend aussi, on nous inculque qu'en fait les douleurs des règles doivent être surmontées par la femme. C'est quelque chose qui est totalement surmontable. On doit prendre sur nous, on doit faire avec. Mais il y a un moment où c'est pas possible tout le temps non plus. Et pour toutes les femmes, on n'a pas toutes les mêmes douleurs.
Ce qui est inquiétant, c'est qu'on a tendance à nous dire oui, c'est normal d'avoir mal, donc faut surmonter. Tu prends un Spasfon, tu prends un Doliprane et puis c'est bon, c'est réglé. Mais du coup, on distingue plus les douleurs qui sont graves, qui sont en fait synonymes d'un dysfonctionnement de l'appareil, qui implique que là, il faut aller voir un spécialiste ou du moins prendre soin de soi, vraiment se soigner. Et on ne nous l'autorise plus, parce que la douleur de règle, bah, c'est un espèce de gros ensemble dans lequel on met toutes les douleurs, qu'elles soient utérines ou vaginales ou simplement abdominales, hein, donc juste du ventre. Et du coup, on va se dire, bah, la nénette, elle va bien en fait, elle a juste ses règles, elle veut juste faire chier son monde si elle est pas là,
c'est ça.
Elle veut se faire plaindre, elle veut, enfin.
Alors que si on regarde de plus près, quand on regarde un petit peu les symptômes des règles, alors on a besoin d'aller souvent aux toilettes, on a très très mal au ventre. On peut avoir de la fièvre, des migraines, donc des symptômes qui ressemblent énormément, comme on avait dit, à une gastro-entérite. Alors là, par contre, pour le coup, ce qui différencie, si on a une gastro au travail, il n'y a aucun problème. Hein. Vous pouvez prendre une semaine, mais pourquoi ? Parce que forcément, le risque de contamination qui fait peur à tout le monde. Effectivement, les règles... On peut pas les transmettre. Hein.
Non. Mais en fait, c'est ça qui est fou, c'est que déjà, c'est pas comme tu le disais, c'est pas les mêmes symptômes d'une femme à l'autre. Y a des femmes qui sont beaucoup plus sensibles et pour diverses raisons. C'est-à-dire que j'inciterai personne à dire allez voir immédiatement votre gynéco parce que vous avez mal quand vous avez vos règles. Mais ouais, c'est un symptôme qui peut apparaître, mais qui n'est pas obligatoire. C'est comme tout ce qui est fièvre et compagnie, c'est pas obligatoire. Sauf que comme tu le dis, bah, dans une gastro, c'est pareil, c'est pas obligatoire. Hein.
ça peut être changeant. Ça peut être changeant. Des règles dans une vie, j'imagine.
Chaque cycle, c'est pas forcément la même douleur. Voilà. Et je voulais juste dire quelque chose. C'est vrai que j'ai parlé beaucoup des hommes et compagnie, mais il y a des femmes aussi qui comprennent pas la douleur qu'on peut ressentir si elles ont des règles qui sont pas douloureuses du tout. C'est pareil, on passe toujours un peu pour des chochottes, pour des filles qui font de la comédie, du cinéma.
Et puis il y a le moment aussi où il faut se dire, là cette douleur je la connais pas, c'est dangereux, c'est pas bon, je peux pas rester immobilisée comme ça à cause de quelque chose qui est naturel, donc là il y a vraiment un problème.
Ouais, mais c'est difficile, à quel seuil, à partir de quand
ça
on se dit non, cette douleur elle est pas normale.
Et ben, comme ça, en se disant cette douleur est normale, cette douleur est normale, cette douleur est normale, il y a des gens qui ont fini par développer des endométrioses. Alors on a déjà évoqué rapidement une endométriose, c'est une déformation de l'endomètre, donc ce qui fait les rhinitis, en gros. Hein. L'écoulement de sang vient de la déchirure de l'endomètre une fois qu'il se dégrade à un moment du cycle. Et du coup, l'endométriose, c'est quand finalement ça ne se fait plus correctement dans le cycle et que cette peau, en fait, est beaucoup trop, devient moins souple. Craque plus facilement, donc crée des saignements réguliers, des choses comme ça. Bon, ça a l'air anodin comme ça parce qu'on se dit, bon, c'est fait pour craquer, pour saigner, c'est le fonctionnement normal des choses. Si j'ai des ménorrhées souvent, la gynéco va dire, oh, ça arrive pas souvent, bon, c'est pas grave. Sauf que, des fois, il peut y avoir des choses, ça peut amener à la stérilité, une endométriose mal. Enfin, encore une fois, de ce que j'ai pris comme renseignement.
De ce que j'ai entendu aussi comme renseignement.
Le rappeler, allez toujours vous renseigner auprès de votre gynéco, auprès de votre médecin, mais aussi sur Internet, en croisant les informations, en faisant attention à ce qu'on lit. Mais c'est ça le but de l'émission. Mais pour continuer sur cette question des apparences. De la femme qui a ses règles, finalement, on s'aperçoit bien que ce soit dans la protection hygiénique ou dans la façon de gérer socialement la femme qui a ses règles, il y a une maltraitance là aussi, du vagin, mais pas que, hein, du coup, de tout notre appareil reproductif pour le coup, mais qui est pas une maltraitance physique, qui est une maltraitance de l'ignorance, c'est-à-dire on veut pas en parler, on veut pas savoir comment ça marche et on veut pas amener finalement un vrai discours, une vraie recherche, un vrai questionnement là-dessus.
Et inversement aussi, je m'étais fait la réflexion que les douleurs des règles, ça reste aussi quelque chose de naturel en fait. Dans la vie, on peut pas ne jamais souffrir. Pour la femme déjà, il y a l'accouchement. C'est quelque chose de naturel.
C'est pas la première douleur qu'on rencontre, mais oui.
Non, mais on peut être amené à subir les douleurs de l'accouchement. Enfin, ça, et je pense qu'on oublie aussi que les règles, on en a besoin. C'est quelque chose en fait qui fait partie de notre corps, qui nous est utile. Et on le diabolise, nous, entre filles. Ah, les règles, c'est chiant. On a tendance à aussi beaucoup le diaboliser, alors qu'il faut peut-être essayer de moins lutter contre et faire avec.
C'est un peu aussi la marque de nos chaleurs, entre guillemets, comme les autres mammifères. Et c'est un peu aussi ce qui montre que tout fonctionne si on a envie de continuer à perpétuer l'espèce.
Non, mais c'est vrai, bizarrement, quand on a nos règles, on n'est pas contente, mais alors le jour où on les a pas, et on s'interroge, on est stressé, on sait pas ce qui se passe. Donc,
mais après, c'est fou. Enfin, je trouve ça fou, hein, quand même, que nos vies tournent autour de ça, nous, les filles. Parce que, il y a plein de produits qui sont orientés pour nous aussi pour ça. Hein, on en parlait dans l'émission d'avant, on en parle là. On ne se pose pas vraiment la question de qu'est-ce qui se passe vraiment, qu'est-ce qui est vraiment bien, qu'est-ce qui est. C'est étrange. Et même, j'ai envie de dire, d'enchaîner sur le fait de baiser quand on a nos règles. Donc là encore, avec Nadège, on en avait parlé dans l'émission que j'ai citée, mais. On peut baiser quand on a nos règles. N'oubliez pas que c'est le vagin qui est concerné. Alors, avoir un rapport sexuel pénétrant vaginal est possible pendant qu'on a nos règles. Pourquoi ? Parce que le vagin, finalement, c'est un canal. Donc, c'est pas le vagin qui saigne en lui-même, déjà. Donc, on fait pas mal. Ça fait pas mal. Même des fois, ça détend parce que ça fait sécréter des endorphines et ça fait du bien quand t'as des contractions utérines toute la journée et que tu sécrètes un peu d'endorphines, là, ça soulage, quoi, j'ai envie de dire. C'est pourquoi pas. En fait, ça ne change rien, mis à part le fait qu'il y a en effet du sang, que bah, à partir du moment où il y a du sang, les risques de contamination sont plus importants. Mais là, c'est comme dans tout rapport où bah, il y a du sang. À un moment donné, il faut faire attention, donc se protéger, faire d'autant plus attention à sa protection, etc. Maintenant, hormis cette question-là, eh ben, ça ne change strictement rien. On peut faire l'amour quand on a nos règles. Enfin, on peut. Ça ne tue à personne. C'est à la limite, ça implique une douche pour effacer les preuves entre guillemets. Mais voilà, ça ne crée aucun problème. Donc voilà, mesdemoiselles qui avaient peur. Bah si. En plus, hormonalement, on est stimulé à ce moment-là, donc c'est normal aussi d'avoir envie.
Non, moi je trouve que c'est vraiment bien en fait ce que tu dis. Après en fait ouais, je trouve ça génial, sauf que j'arrive pas à l'intégrer. Tu vois, c'est pareil, ça fait partie un peu du formatage ou peut-être d'une question, il y a aussi une question de pudeur en fait, il y a pas non plus que la société qui nous impose, il y a aussi ce qu'on s'impose à soi-même d'être toujours un petit peu parfaite face à notre partenaire.
Mais c'est
compliqué quand même.
Puis
c'est une question
l'image.
Un peu compliquée.
C'est l'image des règles, c'est le sang. C'est avec toi quand on faisait la métaphore, on dirait que c'est la guerre,
c'est la enfin, guerre, la douleur,
c'est le sang. Excusez-moi. Alors que, finalement, dans certaines publicités pour des protections hygiéniques, quand même, on a fini par remplacer ça par un liquide bleu, justement, pour plus qu'il y ait cette représentation sanguinolente, qui est synonyme, bah, voilà, de violence, de mal, de machin. Ça, je veux dire, le revers de la médaille à cacher cet aspect naturel qui est, oui, c'est du sang, c'est vrai, fait que déjà, nous, on a du mal à le supporter, l'idée qu'il puisse y avoir du sang autre part que dans notre serviette hygiénique à ce moment-là. Donc aussi pendant les rapports sexuels, fait aussi que toute une génération de gamines a cru que les règles étaient bleues, donc du coup a paniqué pour une hémorragie interne quelconque lors de leurs premières règles. C'est aussi ça qui fait que finalement toute cette imagerie, elle amène à ce qu'on se dise, ben non, c'est pas beau, c'est sale.
Oui, mais il y a aussi la crainte, il y a aussi la crainte du sang. Le corps, on va dire, chez la femme, à part pendant les règles, donc du coup, celui de l'homme aussi, en fait, on saigne pas, on a la peau qui est protégée. Enfin, le seul moment où on saigne, c'est si on se coupe, si on se fait mal. Donc forcément, en fait, enfin, il y a des gens qui ont une crainte hein, du sang. Et qui est pas forcément dû à je sais pas
non,
à ce qu'on entend
qui est alors je sais pas, là il faudrait se renseigner au niveau psychologique aussi, mais c'est pareil, c'est que le sang, ça veut dire, comme tu le dis, coupure, ça veut dire blessure, ça veut dire se faire mal, ça veut dire douleur,
tout ce qu'il
faut se dire, c'est personne n'est obligé d'avoir des rapports sexuels pendant les règles hein. Enfin, c'est ni une obligation ni une interdiction.
Non, mais j'ai bien compris que tu disais
mais
que c'était une possibilité.
Voilà,
en fait, qu'il faut pas qu'on le raye totalement de la carte en se disant c'est inconcevable. Voilà. Après, au gré de chacun, évidemment.
En tout cas, ça ne fera pas mal. Enfin, voilà.
C'est possible. Il y a rien qui l'empêche en termes, physiologiquement parlant.
Voilà. En tout cas, ce n'est pas pire de stimuler le sexe féminin pendant les règles que de lui coller un tampon pour le faire taire. Hein. Voilà. Après, il y a une petite chose. Avant de peut-être de conclure, je ne sais pas, il y a une chose aussi qu'on n'a pas dite, c'est que petite anecdote marrante, les grandes robes, les très très grandes robes, parce que là on est en train de parler de cacher, de boucher, de voilà, de changer les odeurs, de changer l'apparence, mais voilà, sachez qu'on y a pensé bien avant notre technologie à base de cellulose, etc. Pour cacher tout ça, avant, bah, les femmes portaient de très grandes robes, on cachait les jambes, on cachait les chevilles parce qu'on se lavait peut-être toutes les semaines, toutes les deux semaines, voire tous les mois, que les écoulements étaient réguliers, puisqu'il faut bien évacuer. Et les grandes robes permettaient aussi de cacher tout ce qui se passait entre les cuisses de madame. C'est là le truc magique, c'est que la première chose à laquelle on a pensé avec ça, ça a été quand même de cacher, de couvrir le truc, que ça reste élégant malgré tout. Quoi. Ces grandes robes, ces grandes crinolines, hop, comme ça, ça ne touchait pas la peau, on pouvait aller faire pipi, caca, avoir nos règles, faire tout ce qu'on voulait, c'était caché, personne ne pouvait voir. Donc il y avait déjà ça, voilà, une femme reste propre, reste...
Ceci dit, je vais peut-être me faire lyncher, mais je trouve ça quand même 10 000 fois plus agréable de porter une grande jupe évasée qu'un pantalon tout serré, moulant, enfin... Je sais pas si tu vois ce que je veux dire.
Oui, c'est pour ça qu'on a inventé le pantalon pas serré ni moulant.
Ah bon ? Et il est en vente où ? Je le connais pas celui-là.
Si, mais après, c'est voilà. Encore une fois, c'était... Chacun... Voilà, à un moment donné, écoutez votre corps, les filles. Habillez-vous comme vous voulez. Protégez-vous comme vous voulez, de la manière la plus efficace possible pour vous. Et voilà. Après, je sais que les règles, ça fait peur. Ça fait peur à tout le monde parce qu'il y a du sang, parce que ça veut dire possibilité de bébé aussi, et qu'on est dans une société où on n'est pas forcément à fond dans le concept. Que la plupart des gens, ça fait peur, parce que la plupart des gens confondent utérus et vagin et se disent que c'est une grosse hémorragie, et qu'il y a tout qui saigne et que c'est le bordel et tout. Non, non, c'est juste l'utérus. Encore une fois, ça témoigne juste du fait qu'on n'en parle pas assez.
Et bizarrement, je pense qu'il y a un côté où aussi on les aime, nos règles, hein, quand on arrive à la période de ménopause. Après, ça dépend, chacun aussi, c'est pareil, selon c'est le ressent voilà. Différemment. Mais il y a certaines femmes qui sont dégoûtées de plus les avoir parce qu'elles savent que c'est la fin de quelque chose, en quelque sorte.
Je pense qu'il y a dans tous les cas, il y a un changement. Après, il est apprécié différemment, mais oui, ça existe. En tout cas, ça existe. Et on peut pas le mettre de côté aussi facilement que ce qu'on essaye de nous le faire croire tout le temps. En tout cas, le but là, c'est Emel, tu me le dis si je me plante, mais c'est d'amener tout le monde à chercher à comprendre son fonctionnement déjà, surtout les femmes, parce que oui, les règles de soins et d'entretien qu'on connaît sont souvent basées sur des visions très patriarcales de la chose. Hein. Donc faire de la femme un objet qui sent bon, qui est décoratif et pratique à la fois. Mais du coup, chercher soi-même à qu'est-ce qui nous convient le mieux dans ces questions-là. Quoi.
Du coup, je sais pas si on a le temps un tout petit peu ou pas, et de faire vraiment de l'impro total. J'aimerais juste te poser une question, Stan, parce que du coup, t'es super silencieux depuis tout à l'heure. C'est vrai qu'on a préparé nos trucs avec Jonathan, mais et en plus, même en privé, je t'ai jamais demandé qu'est-ce que t'en penses en fait, un peu de tout ça.
Alors. De mon côté, moi j'ai été assez rapidement, pas intéressé par les règles, parce qu'on va peut-être pas aller là-dessus, mais renseigné d'avoir quelques infos. Enfin, j'ai 17 ans, on parlait déjà de la cup. J'ai plus moi informé d'autres amis que la cup existait en fait, parce que elle savait pas en fait, elle découvrait. C'est vrai que j'ai découvert très tôt et je le savais même pas. Et les règles, c'est sûr, enfin, en tant que. C'est quelque chose de la vie, ça en fait partie. Il y a une forme de dégoût, c'est vrai. Il y a une forme de gêne en fait qui est instaurée, qui est présente, qu'on nous inculque un petit peu et qui est toujours un petit peu compliqué de s'enlever. Mais même t'en parler aussi, tu l'as un petit peu. Tu
l'as un petit peu. Je l'ai, je le reconnais.
Tu veux pas les montrer, tu veux pas. Voilà. Et voilà, je pense que. C'est vrai que c'est quelque chose qu'on nous amène un petit peu, c'est quelque chose d'un peu honteux, c'est quelque chose de privé, c'est quelque chose qu'on essaye de cacher. Et en tant que mec, moi j'ai un petit peu ce côté-là. C'est-à-dire qu'en plus, c'est vrai que même ce qu'on sent légitime d'en parler, ce qu'on sent, tout ça, c'est compliqué, c'est très loin de nous. On sait absolument pas la douleur qu'il y a.
Non, mais peut-être qu'on vous met à l'écart, nous aussi, par rapport à ça.
Je sais pas, mais c'est quelque chose qui est, c'est vrai qu'on prend pas la discussion, on l'en prend jamais quand on est jeune, quand on est ado, quand on est en début de couple en plus, on pense pas du tout à ça. Ça fait partie de la chose, on sait que ça existe, mais on n'est pas forcément renseigné, on sait pas que ça vient de l'utérus, c'est pas du vagin, on sait pas tout ça, on sait que c'est pas grave. Mais on sait que. Et en plus, je pense que ça dépend énormément de qui on a autour de nous. Est-ce qu'on a des sœurs? Est-ce qu'on a une mère qui en a parlé aussi, qui voilà. Moi j'ai eu la chance aussi encore une fois d'avoir ma sœur qui en a ma mère qui en a un petit peu parlé à cause de ma sœur ou grâce à ma sœur justement. Donc j'étais un petit peu renseigné sur le sujet et c'est pas quelque chose qui me perturbe ou que je veux mettre de côté. Enfin j'essaie de pas le mettre de côté en tout cas en me disant oui ça existe, mais c'est vrai que je peux pas je n'arrive pas à comprendre je pense la totalité de la chose parce que je suis forcément je suis assez loin de tout ça. Malheureusement, et même si on a envie de un petit peu mieux se renseigner, de comprendre, c'est vrai que c'est quelque chose qui semble assez un peu compliqué parfois de vraiment se visualiser. Parce que, encore comme tu dis, un saignement chez un mec, ça arrive quand on se fait, quand on s'ouvre, quand on se. C'est, voilà, qu'il y a un vrai problème en fait, et pas tous les mois. Donc en fait, c'est quelque chose déjà qui est dans notre fonctionnement en fait, il faut l'assimiler, il faut le comprendre, et je pense que c'est un peu compliqué.
On se met un peu de musique ?
Ouais.
Et c'était le générique de Ghost in the Shell dans Radio Canu 102.2 sur la causerie, parce que c'est trop cool la causerie. Et que du coup avec Mel, on se disait qu'on allait vous annoncer que la prochaine fois, donc dans un mois environ, hein, un peu comme des ragnagnas, on allait vous parler de contraception. Et en attendant ce prochain mois, Stan, tu voulais nous parler de foot de filles.
Exactement. Alors il est déjà 49, donc on va essayer de faire très vite. Donc je vais aller un petit peu tracer en diagonale dans le sujet, mais je vais vous parler de foot féminin. Je vais vous parler d'une équipe une équipe de filles, donc de jeunes filles, qui a 14 ans, en Espagne, l'AEM Lleida, qui en fait a gagné un championnat masculin. Alors, pour la petite histoire, c'est pas vraiment un championnat masculin. En Espagne, on appelle ça des championnats mixtes parce que tous les championnats en dessous de 14 ans sont mixtes. Mais, dans les faits, il y a d'un côté les championnats masculins et de l'autre côté les championnats féminins. Quand il y a des filles qui sont sur le terrain, c'est complètement incroyable. Ça n'arrive quasiment jamais. Et en fait, donc, l'histoire de cette équipe, elle est assez cocasse parce que c'est une équipe qui se portait très très bien en son championnat, qui marchait plutôt bien. Et l'entraîneur, le président du club, s'est dit, bah voilà, moi j'ai une équipe qui fonctionne très bien. Et en Espagne, j'en parlerai un petit peu après, le foot féminin, c'est vraiment pas aimé. C'est presque, j'ai envie de dire, pas aimé. C'est pas du tout poussé, ils trouvent vraiment, enfin, ce n'est pas du tout un sport pour eux. Enfin, c'est pas un sport pour les filles, quoi. Et donc, bah, ce président, il s'est dit, voilà, moi j'ai des filles qui sont vraiment, vraiment douées, mais il leur faut des adversaires à un niveau supérieur que ce qu'elles ont actuellement, parce que c'est aussi comme ça qu'on progresse. C'est aussi quand on affronte un niveau qui est un autre niveau, en fait. Donc il a inscrit l'équipe dans un autre championnat, dans un championnat mixte, masculin, en fait. Et bon, bah là, il a commencé déjà à s'affronter un vrai premier problème, ce sont les parents des filles. Les parents des filles n'étaient pas emballés du fait que leur fille allait affronter des hommes. Et certains parents avaient peur que leur fille se fasse ridiculiser par les garçons, en fait. Et il y avait même une mère qui dit, j'ai attendu le plus longtemps possible avant d'inscrire ma fille. Enfin, de revalider l'inscription, parce que j'avais peur qu'elle se fasse blesser par les garçons, en fait. Et en fait, sa fille, elle arrêtait pas de lui dire, mais maman, c'est du sport, moi aussi je peux blesser les garçons, en fait. Ça va dans les deux sens. Et je trouvais ça mignon comme anecdote. Et donc voilà, et en fait, c'est pas du tout le seul problème qu'elles ont eu. Donc déjà, ce qui s'est passé, c'est qu'en une première année qui a été un petit peu compliquée, une première année où ils ont fini 12e sur 18, ce qui est quand même très honorable, mais elles ont commencé à prendre le pli, à prendre leur marque, et la deuxième année, elles ont gagné le championnat. Elles ont gagné le championnat, et ce qui est pas un exploit, mais ce qui est quand même très bien. Dans tous les cas, être l'équipe qui gagne un championnat, c'est extraordinaire, et là, c'était vraiment pas évident, elles ont dû se battre avec d'autres armes. Par exemple, il y a la capitaine Andrea Gomez, qui est aussi la meilleure buteuse de l'équipe, qui a dit, donc là je cite un texto, « J'essaye toujours de montrer que le foot n'est pas que pour les garçons. Si tu es techniquement meilleur, tu peux t'en servir pour compenser le fait que tu es peut-être plus faible physiquement. » Voilà. C'était une vraie mentalité de foot. Elles avaient envie de jouer, elles avaient envie d'y aller à fond, quoi. Et quels que soient leurs adversaires, ça n'a resté que des adversaires. Elles ont joué avec leur talent, avec ce qu'elles avaient. Donc elles avaient la technique, la tactique. Semblerait qu'elles respectaient extrêmement bien les consignes de l'entraîneur. Vraiment, voilà, pour compenser tout, voilà, cette peut-être d'être un petit peu moins physique. La saison fut pas non plus facile à tous les niveaux, encore une fois. C'est pas que les parents, c'est pas que tout ce qu'il y avait autour. C'était aussi, forcément, les arbitres. Les arbitres, enfin, forcément, malheureusement, j'ai envie de dire. Les arbitres ont été un petit peu relous toute l'année, quand ils voyaient une équipe de filles arriver sur le terrain, c'était un petit peu, mais vous vous êtes pas trompé de terrain. Enfin, vous jouez pas là aujourd'hui, c'est une équipe de garçons qui doit venir. Non, c'est bien nous. C'est bien nous. Il y a même eu encore pire, il y a eu un arbitre qui a, pendant tout le match, a parlé aux filles en disant « Ah, les princesses ». Voilà, on est sur un terrain de foot, elles sont là, elles jouent bien, et même si elles jouaient pas bien, de toute façon, ce ne sont pas des princesses, en fait. Sans faire du sport, c'est tout. Et d'autres trucs aussi, forcément, là, c'est un peu plus, on s'y attend, il y a pas mal de difficultés qui venaient des tribunes. Parce que les parents des garçons, ils étaient un petit peu gênés de voir leurs garçons se faire battre par des filles. Et bizarrement, ça venait encore plus des mamans que des papas. Les mamans ont vraiment eu des propos très machistes, très insultants envers les filles qui gagnaient contre leurs garçons. C'est pour dire à quel point on est loin quand même dans la mentalité de tout ça. Pourquoi est-ce que je parlais en Espagne, c'est pas du tout encore vraiment un sport reconnu. Il y a très peu d'équipes professionnelles d'Espagne, donc on va parler du Real de Madrid, de Barcelone, etc. Le Real de Madrid a une équipe féminine depuis l'année dernière, seulement, depuis 2016. Il y a beaucoup de clubs, donc plus petits clubs, qui ont une section féminine, très bien, mais qui ne leur allouent rien du tout. Voilà, ça va pas plus loin, c'est rien du tout. C'est-à-dire qu'il y a même quand il y a un bus du club, le bus est là pour transporter les garçons, les filles par contre, elles se débrouillent pour aller faire leur match. Ils s'en foutent complètement, quoi, c'est... voilà. Et de toute façon, ils s'y intéressent pas vraiment, en fait. Donc, voilà, c'était juste pour parler un petit peu de ce club-là, ces filles qui ont réussi à se dépasser, qui ont réussi à vraiment mêler.
Ouais, et sur le terrain, parce que t'as parlé des tribunes, des arbitres, mais du coup, et l'équipe adverse,
oui,
en fait.
J'allais en parler juste après.
Ils sont, du coup, ils voient le niveau des filles, ça doit être impressionnant, ils sont fair-play.
Je vais juste citer un des garçons. Parce que voilà, ça se passait plutôt bien en fait, généralement. Et donc les garçons, il y en a un qui dit oui, c'est vrai que c'est pas plaisant de perdre contre des filles, mais il faut dire que celle-ci, elle était vraiment, vraiment forte.
Ah, c'est chouette.
Donc voilà, en fait, même pour eux, et quelque part, perdre, pour eux, c'est toujours chiant en fait. Que ce soit des filles ou des garçons, c'est chiant. Ils font du sport, ils sont là pour gagner ou pas, ou ils sont là pour jouer, etc. Mais eux qui avaient envie de gagner, voilà, ils ont juste eu un adversaire qui était plus fort qu'eux. Et donc, en soi, on se revient toujours à ce qu'on dit, en fait. C'est nos parents qui vont nous inculquer une image, quelque chose qu'il faut réagir comme ça. Alors que l'enfant, en soi, on en revient un petit peu sur la causerie qu'on avait fait avec Egaligone, où il y a justement, depuis toujours, en fait, cette espèce de distinction où on dit que, les filles, elles ne peuvent faire que ça, et les garçons, ils peuvent faire que ça. Les filles à la cuisine, les garçons au sport. C'est complètement aberrant, en fait. Et là, on a une petite équipe de filles de 14 ans qui ont montré que, si elles avaient envie, elles se sont battues avec leurs armes, elles ont remporté un championnat. Encore une fois, elles ont remporté un championnat. Donc, malgré tout ça, et ça c'est bien plus grave, c'est que cette équipe-là, et ce club-là n'a toujours pas trouvé de sponsor. La fédération ne leur donne pas du tout d'argent, donc ils en sont à passer par un crowdfunding pour avoir un petit peu de thunes pour continuer à prolonger ça, à exister. Donc encore une fois, il n'y a rien qui va dans leur sens, malheureusement. Même si tout n'est pas perdu, il y a quelques progrès. Il y a eu à Lyon, Lyon a gagné la Champions League là, il n'y a pas longtemps, féminin donc, après avoir remporté pour la 11e fois le championnat, 2e fois la Champions League. La finale de la Champions League a été passée en prime time sur France 2, ce qui est une première en fait, parce qu'avant c'était passé à 18h, enfin ça passait à 18h, et là donc c'est en prime time. Donc désolé pour ceux qui n'aiment pas le foot, par contre on rajoute, mais voilà, c'est quand même. Il y a de temps en temps quelques efforts pour ramener le foot féminin à un niveau, enfin un auditoire un petit peu plus. Qui devrait être plus normal. Et voilà, et c'est tout.
Et merci beaucoup Stan pour ce charmant plaidoyer pour le sport féminin et le foot en particulier. Et peut-être qu'avant de se quitter, on a quelques brèves à donner.
Oui, donc plusieurs rendez-vous cette semaine. Tout d'abord, lundi 5 juin, comme tous les lundis, il y aura une permanence juridique de soutien aux sans-papiers à la Lutine, 91 rue Montesquieu dans le 7e. Jeudi 8 juin, le collectif lesbien lyonnais invite à une soirée projection débat autour du documentaire La Révolution du Désir, un film de Alessandro Avelis et Gabriel Ferluga qui date de 2006. Le film présente les groupes et les actions qui ont donné vie au mouvement de libération sexuelle en France, comme le FAR, le MLF, et interroge sur le passage de la révolte à la normalisation des homosexuels. Donc c'est un événement ouvert à toutes et à tous. L'entrée est gratuite et ça se passe au centre LGBTI, 19 rue des Capucins, de 19h30 à 22h30. Vendredi 9 juin, il y aura une soirée en solidarité avec le collectif Femmes Marocaines pour l'émancipation à l'atelier des Canulars, 91 rue Montesquieu, dans le 7e toujours. Un bar et un repas à prix libre vous seront proposés, suivis d'une présentation du collectif et la projection d'un film sur les luttes des ouvrières du textile à Casablanca. Alors, qui sont les femmes marocaines pour l'émancipation? C'est un groupe composé de femmes de différentes générations et différentes appartenances. Certaines d'entre elles sont étudiantes, d'autres syndicalistes, chômeuses ou militantes associatives. Elles ont pour projet de développer plusieurs axes. Production d'une revue d'information et d'analyse sur les conditions des femmes. Élaboration d'un matériel d'éducation antisexiste. Intervention dans les mouvements sociaux et syndicaux pour la question des discriminations touchant les femmes. Pour que la question des discriminations touchant les femmes soit présente. Ouverture de centres d'accueil et d'écoute pour les femmes victimes de violences. Défense du droit à l'avortement libre et gratuit. Reconnaissance du combat LGBT. Donc c'est une soirée qui a lieu à l'atelier des Calunards le vendredi 9 juin à 19h. Toujours le vendredi 9 juin, soirée d'ouverture de la quinzaine des cultures LGBTI au théâtre Nouvelle Génération, 23 rue de Bourgogne, dans le 9e. Venez rejoindre les équipes de la LGP, Lesbian and Gay Pride, et Coming Out Festival pour le lancement des festivités en compagnie de l'artiste Yvette Leglaire, avec une programmation musicale de toute beauté. Entrée gratuite et buffet offert. Donc ça se passe au théâtre Nouvelle Génération à 19h30. Et enfin, samedi 10 juin, de 16h à 23h, place Mazagran dans le 7e, ce sera la fête du Lovin Day. Le Lovin Day est la fête mondiale des couples binationaux qui a lieu début juin dans le monde. Et en France, elle sera célébrée à Paris, Lyon, Marseille et Strasbourg. C'est aussi un moyen de faire connaître en fait l'acharnement dont sont victimes les couples mixtes par les préfectures et les consulats et de revendiquer la suppression des lois Sarkozy qui sont parmi les plus dures de toute l'Europe. Au programme concerts, jeux pour enfants et adultes, goûter, buvettes, restauration, informations, témoignages et revendications. C'est un événement gratuit, ouvert à toutes et à tous, organisé par les amoureux au banc public. Et Jonathan, t'avais aussi une...
Moi j'avais juste à dire avant que ça faisait bien longtemps qu'on t'avait pas entendu autant parler.
Oui, mais prenez pas ça pour l'habitude.
Moi j'aimerais bien.
Et bien, si vous êtes sur Strasbourg, chers auditeurs et chères auditrices, à l'occasion de cet événement que vient de vous citer Clara, vous pouvez aussi rester sur Strasbourg jusqu'à lundi 12 juin, puisque lundi 12 juin, Tinan, avec qui on avait fait l'émission pour l'association de démocratie, d'Alliance pour la démocratie, oui, au Laos, organise et cherche des personnes pour l'aider à organiser une manifestation pour les droits de l'homme et notamment pour les droits de l'homme au Laos à Strasbourg le lundi 12 juin de 9h à midi devant le Parlement européen. Il y a un appel à un médiateur motivé, quelqu'un qui aurait très 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 envie de donner du temps à cette cause pour servir de médiateur avec pendant les différentes rencontres de la délégation de Alliance pour la démocratie au Laos. Et donc s'il y a quelqu'un de très intéressé pour aider à changer les choses, Tinan cherche à prendre contact. Donc n'hésitez pas à l'appeler pour s'organiser pour cette manifestation ou pour être médiateur au 06 50 30 73 20. Donc c'est à Strasbourg le 12 juin au 06 50 30 73 20 et c'est Tinan qui organise.
Et ben parfait. Et ben c'est fini je crois pour aujourd'hui.
Bon, on se dit au revoir en musique. On va écouter quoi, Clara?
Alors on va écouter Tam Taka du spectacle Barati 2.
Et on vous souhaite une bonne semaine.
Au revoir et ravi d'avoir participé.
Et ben bon dimanche et bonne semaine et bonne soirée.
Bonne soirée.
Bisous.
Ciao. Team, tak, 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 tak,
Rosarte and Marcella.